L'école élémentaire Jacques Minguet à Dumbé a vandalisé ce matin. Deux salles de classe ont été incendiées. Les auteurs présumés ont été entendus par la gendarmerie. Demain, le temps sera maussade, couvert, instable et venteux. 13 communes de la côte Est seront en vigilance orange, forte pluie et ou forte houle. Le reste du territoire reste en vigilance jaune. Changement de circulation autour de la place des Cocotiers à partir de demain. Plusieurs rues seront désormais en double sens. Une modification définitive, annonce la mairie de Nouméa. Les élus du Congrès examinaient aujourd'hui un texte portant sur la création d'un Haut Conseil de l'économie sociale et solidaire. Cette proposition de délibération a été renvoyée en commission. Le sport avec du trail, nous avons évoqué le lancement du Punch Power Pro Tour ce midi sur notre antenne. Un classement global sera mis en place sur les 6 dates prévues par Pro Event cette année. Détail en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'école Jacques Minguet à Dumbé a victime d'exactions ce matin. Deux salles de classe ont été incendiées volontairement. Les auteurs présumés des faits, au nombre de 4, 3 mineurs et un jeune adulte, ont rapidement été interpellés par la police municipale. Ils ont été entendus par la gendarmerie plus tôt dans la journée. La ville de Dumbé condamne fermement ces actes et assure tout mettre en œuvre pour assurer une rentrée scolaire dans de bonnes conditions pour les enfants et l'équipe éducative. Selon Patrice Cuère, le secrétaire général de Dumbéa, c'est un nouveau coup dur alors que l'école Jacques Minguet avait déjà été fortement dégradée pendant les émeutes de 2024.
En fait, c'est 70 millions que la ville a mis dessus, grâce aussi à l'État qui nous a aidé à hauteur de 48 millions. On est en train de refaire toute la barrière extérieure, etc. C'est un coût de 70 millions auquel va devoir se rajouter ces deux nouvelles classes qu'il faut remettre en état. C'est un peu de désappointement, mais maintenant, nous, on est là pour offrir le meilleur aux enfants. Donc on va tout faire pour qu'ils puissent rentrer dans des bonnes conditions. Donc aujourd'hui, il y a une classe qui a été quand même un peu plus touchée que l'autre, puisque le premier départ de feu a eu lieu dans cette classe-là. Je pense que ça mettra un peu plus de temps pour la remettre en état. La seconde classe, on va tout faire pour qu'elle soit prête pour la rentrée scolaire. Et on a déjà vu avec la directrice comment pouvoir s'organiser pour accueillir dans des bonnes conditions l'ensemble des enfants à la rentrée.
La ville de Dumbéa qui ajoute attendre une réponse ferme de la justice. Des actes également condamnés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui apporte son soutien à l'équipe pédagogique, aux élèves et à leurs familles. L'école est un lieu sacralisé. Elle est l'espace où se transmettent les savoirs, les valeurs du vivre ensemble, du respect et de la citoyenneté, peut-on notamment lire dans un communiqué. Et Cynthia Jean, candidate aux élections municipales à Dumbéa pour la liste Unir pour l'avenir, s'est également exprimée par voie de communiqué. Trop, c'est trop. Nous ne sommes plus autant des condamnations de principe. Il est temps d'agir véritablement et d'arrêter les pansements sur les jambes de bois, déclare-t-elle. La candidate souhaite notamment investir dans la sécurisation des établissements scolaires, mettre en place systématiquement des travaux d'intérêt général quand c'est possible ou encore rappeler la responsabilité parentale. Les délégations calédoniennes doivent aujourd'hui terminer leurs travaux à Paris sur l'accord de Bougival. Elles se retrouvent dans la soirée pour nous et c'est une dernière séance de travail, Jean-François Baudin.
Oui, ce devrait être en effet la dernière réunion de travail entre les partenaires calédoniens, à part le FLNKS qui a décidé de boycotter les discussions. Les délégations du Rassemblement des Loyalistes, de l'Uni, de Calédonie Ensemble et de l'Éveil Océanien doivent parvenir à rédiger un document qui formalise les points sur lesquels des éclaircissements ont été apportés à l'accord de Bougival. C'est en tout cas l'objectif qui avait été fixé par Emmanuel Macron lorsqu'il avait ouvert les travaux vendredi soir à l'Élysée, mais sans changer l'esprit et les équilibres de l'accord, avait-il précisé en substance. Depuis, les délégations ont déjà passé de longs jours de discussion rue Oudinot au ministère des Outre-mer. Comme lors des négociations sur l'accord de Bougival en juillet dernier, peu de choses filtrent sur le contenu des échanges. On sait juste qu'ils ont porté sur les compétences régaliennes, à la fois pour voir comment les Calédoniens peuvent être mieux associés à leur exercice en Calédonie, mais aussi sur les conditions de leur éventuel transfert. Il a aussi été question du droit à l'autodétermination et les élus calédoniens ont également abordé les questions économiques. Initialement, les travaux devaient prendre fin à 12h heure de Paris ce lundi, c'est-à-dire à 22h ce soir heure de Nouméa, mais ils devraient se poursuivre au-delà pour se refermer demain matin pour nous. À l'heure actuelle, on ne sait pas quand ni comment sera dressé le bilan de ces discussions.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Les délégations politiques à Paris vont-elles arriver à se mettre d'accord sur un document permettant d'amender l'accord de Bougival? Si vous pensez qu'elles vont se mettre d'accord, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Le ciel fait grise mine en ce début de semaine. Pluies et orages s'invitent sur presque tout le territoire. Aujourd'hui, quelques éclaircies ont résisté sur le sud-ouest, mais ailleurs, le ciel a été très chargé avec des pluies parfois orageuses, surtout au nord, à l'est et au Loyauté. Et Charles Coulson, ce n'est que le début.
Oui, en cause, le minimum dépressionnaire qui était attendu le week-end dernier est désormais positionné à l'ouest du territoire. La météo des prochains jours va donc dépendre de son évolution. Toutefois, dès ce soir, de fortes pluies sont attendues. 11 communes de la côte est, de Ouigua à Yaté, ont été placées en vigilance orange, fortes pluies et orages. Elles devraient être au nombre de 13 dès ce soir à 20h. Le reste de la Grande Terre, les Loyautés, l'île des Pins et Bélep est pour l'instant en vigilance jaune. Ces averses seront accompagnées de vents avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h localement, explique Gilles Deveau, chef prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Ce petit phénomène va aussi occasionner un renforcement du vent notable sur la pointe nord, tout d'abord en cours de nuit prochaine. Un vent de nord qui va atteindre des valeurs de l'ordre de 30 nœuds, puis jusqu'à 35 nœuds. On a d'ailleurs déjà émis une vigilance jaune sur ces régions et même un bulletin spécial destiné aux plaisanciers. Alors ce vent va ensuite continuer de se renforcer puisque le petit phénomène va évoluer dans l'ouest du pays et le vent va s'orienter au secteur nord-ouest et on aura des valeurs qui vont osciller entre 30 et 35 nœuds dans la journée de mardi avec des rafales voisines de 45 nœuds, voire localement 50 nœuds, ce qui équivaut à peu près à 95 km/h.
Et cette nuit, l'instabilité va se généraliser. Des cumuls de pluie importants sont attendus, notamment sur l'est et le nord, avec un risque de débordement des cours d'eau. Des averses qui devraient durer jusqu'à cette fin de semaine, explique Gilles Deveau.
Le phénomène a déjà débuté puisqu'on est déjà en vigilance jaune depuis un moment. Mais en fait, il va s'intensifier dans les heures prochaines en courant de nuit. Après une petite période d'accalmie en cours de journée de mardi, il reprend en intensité dans la nuit de mardi à mercredi. On va avoir encore un temps perturbé jeudi. Et il faut attendre vraiment la fin de semaine, mais vendredi, déjà, les précipitations ne seront plus d'actualité.
Et côté température, elle reste élevée malgré la dégradation, entre 27 et 30 degrés encore aujourd'hui selon les secteurs. Mais la couverture nuageuse et les précipitations feront toutefois baisser les températures aux alentours de jeudi, en restant toutefois toujours au-dessus des normales de saison.
Une baisse des températures bienvenue, car depuis plus d'une semaine, la Calédonie enchaîne les températures élevées avec un ressenti de ces fortes chaleurs parfois étouffantes.
Un coup de chaud qui s'explique par une masse d'air chaude et humide installée sur le territoire, favorisée par un flux peu ventilé. Résultat, la chaleur s'accumule et les nuits peinent à rafraîchir, rendant l'épisode difficile à supporter pour beaucoup. Dans certaines zones, les maximales approchent, voire dépassent les 30 degrés, avec un taux d'humidité élevé. Selon les observations publiées par Météo France NC, à Païta et Boulou-Paris, le mercure a atteint 38 degrés en fin de semaine. Semaine dernière, au Mont d'Or, il a dépassé les 36 degrés. Thomas Abinoun est climatologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
La valeur la plus élevée qu'on a enregistrée, d'abord, c'est à Népouy, avec 36,9 degrés. Et c'est d'ailleurs un record annuel sur cette station. Donc là, on est quasiment à 7 degrés au-dessus de la valeur habituelle de janvier. Après, par exemple, sur Nouméa, on est à 34,6 degrés. Donc pour une normale à 29,5, donc on est 5 degrés au-dessus des normales. À Tontouta, on est à 34,9 degrés. À la fois, on a 35,1 degrés. À Koumac, 35 degrés. Donc sur l'ensemble des communes de la côte ouest, on est entre plus 4 et plus 5 degrés au-dessus des valeurs de saison.
Des fortes chaleurs difficiles à supporter, mais devenues presque ordinaires en cette période de l'année, rappelle Thomas Abinoun.
Il n'y a pas besoin de remonter loin dans le passé pour retrouver des grosses chaleurs comme ça. En fait, on en a tous les ans et même plusieurs fois par an. Dès qu'on a du vent de nord-est, c'est très classique. Si on regarde le nombre de records de chaleur qui ont été battus, par exemple en 2025, on a dépassé 100 records de chaleur rien que sur cette année. On est dans une logique de températures qui sont croissantes et en fait, à chaque fois, il fait un petit peu plus chaud. Et donc, quand on est sur cette période de l'année qui est la période la plus chaude, janvier, février, eh bien, c'est pas étonnant quelque part qu'on ait comme ça des vagues de chaleur qui soient ressenties de manière très inconfortable. constatable par l'ensemble de la population et principalement donc sur la côte ouest où on a un effet d'augmentation encore plus marqué.
Et sur la côte est et dans les loyautés, il a aussi fait plus chaud que d'habitude, mais avec seulement plus 1 degré par rapport aux températures de référence. Une évolution est attendue dans les prochains jours avec l'arrivée de la dégradation météo. Les pluies et le vent devraient permettre une baisse progressive des températures avec un retour vers des valeurs plus proches des normales de saison.
La prudence est donc recommandée cette semaine, notamment lors de vos déplacements. Nous en reparlerons demain avec le capitaine Alexandre Rossignol, officier de la communication de la DSCGR. Il sera notre invité du matin à 7h30. Et en raison des prévisions météorologiques défavorables, la ville de Nouméa informe que le village vacances de l'hippodrome Henri Millard sera exceptionnellement fermé demain. Un été à Nouméa est donc momentanément suspendu jusqu'au retour du beau temps. On parle météo également dans le Pacifique, la météo qui provoque des dégâts en Australie, notamment dans l'état du New South Wales, touché par une tempête hier. Plusieurs quartiers de Sydney, de ses environs ont été inondés. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
De l'ordre de 150 à 180 mm en quelques heures, ces chutes de pluie ont inondé plusieurs quartiers de Sydney, y rendant impossible toute circulation routière et ferroviaire. Les autorités ont ordonné l'évacuation de plusieurs terrains de camping menacés par la montée des eaux, tandis que les services d'urgence ont répondu à près de 3000 appels à l'aide. En plus des arbres déracinés par le vent qui accompagnait ce que l'on peut appeler une tempête inattendue, des glissements de terrain se sont produits qui ont quasiment enseveli plusieurs maisons. Ce matin encore, plusieurs milliers d'usagers étaient toujours sans électricité, et de nombreuses inondations étaient encore signalées, tant dans Sydney que dans sa grande région. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 17h, passé de 57 minutes. Première pause dans ce journal, avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire, et notamment ce changement de circulation autour de la place des Cocotiers. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Info soir, Léana Colombo.
Prudence, ça bouge autour de la place des Cocotiers. À compter de demain, la circulation passe en double sens autour de la place. Les travaux de signalisation qui ont débuté vendredi se poursuivront cette nuit. Le nouveau sens de circulation sera donc mis en place dès demain matin. Les explications de Jean Brudy, directeur de l'espace public à la ville de Nouméa.
On va mettre en place des doubles sens de circulation. Là, aujourd'hui, on a des sens uniques sur la rue Jaurès, d'un côté, sur la rue Anatole France de l'autre. Pour simplifier, on a également une portion de la rue Mangin. Donc on va en fait passer là où on avait deux voies de circulation dans un sens, on va les passer en double sens. Donc les travaux, ils ont commencé aujourd'hui. On va pouvoir terminer ce soir la partie côté Jaurès. Et effectivement, on va temporiser en fonction des conditions météo qui s'annoncent mauvaises pour cette nuit. Donc on va s'activer sur le côté Jaurès, la partie nord de la place des Cocotiers. Et demain, en fonction des conditions, on poursuivra sur la partie côté Anatole France. Notre objectif, c'est qu'on puisse rendre la rue Jaurès en double sens cette nuit, donc entre la rue Galigny et la rue de Sébastopol. Donc ça permet effectivement déjà, dès demain matin, de pouvoir faire le tour de la place des Cocotiers dans un sens. Et on a commencé vendredi, on est encore là, il ne pleut pas en ce moment, donc on prépare vraiment tout ce qu'il faut, les effaçages sont faits. Les panneaux seront posés cette nuit, et la peinture également.
Une demande venant des commerçants afin de fluidifier le trafic et de rendre les commerces du centre-ville plus accessibles.
On a terminé les travaux sur la rue Jaurès, effectivement, qui étaient un peu les gros travaux d'assainissement qui nous ont bloqués sous le secteur Jaurès pendant un certain temps, permettent aujourd'hui de libérer cet axe et donc de pouvoir le rendre plus fluide, de pouvoir faire le tour de la place des Cocotiers, comme je disais, de créer cet accès depuis la rue Galigny qui permet d'accéder à la place des Cocotiers, ce qui était demandé aussi beaucoup par les commerçants, de permettre des liaisons entre les différents secteurs. secteur, passer du secteur nord de la place des Cocotiers au secteur sud et vice-versa. Donc on avait déjà en 2019 mis en double sens une partie de la rue Mangin entre Anatole France et Alma. Je restais déjà en double sens entre Foch et Sébastopol depuis les travaux, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Donc là on va faire la continuité de Jaurès sur toute sa longueur et puis Anatole France en parallèle dans la semaine, les conditions météo le permettront, on passera Anatole France aussi. Ils ont les habitudes, il faut vraiment regarder la signalisation en place. Il y a un carrefour, effectivement, l'intersection Anatole-France, Sébastopol, en haut de la place des Cocotiers, où on change la priorité, le stop. Aujourd'hui, les gens descendaient, ils étaient prioritaires, ils auront un stop, il faut vraiment qu'ils fassent attention. La police sera présente, effectivement, dès que ces signalisations seront en place, il faut être vigilant.
Des ajustements pourront avoir lieu jusqu'à mercredi. Selon l'avancée du chantier, les automobilistes sont donc appelés à être attentifs et à bien respecter la signalisation. La préparation du budget de la Nouvelle-Calédonie, adoptée par le gouvernement, il doit être présenté au Congrès début février. Et c'est dans ce cadre que Christopher Gigès s'est rendu à Paris la semaine dernière. Le membre du gouvernement en charge du secteur a notamment rencontré le ministre de l'Économie et des Finances à Bercy. Il s'agissait de faire le point sur l'aide de l'État dans le cadre de la préparation du budget de la Nouvelle-Calédonie pour faire passer quelques messages.
J'entends trop souvent l'État dire la Nouvelle-Calédonie doit se réformer, la Nouvelle-Calédonie doit faire des efforts.
Et on sait qu'ils ont conditionné leur aide financière à ces réformes.
Oui, mais ils exigent de la Nouvelle-Calédonie des choses qui ne sont pas en capacité de s'appliquer à soi-même. Quand on voit le spectacle à l'Assemblée nationale, je pense que l'État français n'a pas forcément beaucoup de leçons à donner à la Nouvelle-Calédonie en termes de réformes. Donc c'était important de préciser ce qu'on a déjà fait, une baisse de 20% de nos différents budgets, la mise en place d'un jour de carence, la minoration des retraites de la fonction publique, le gel des retraites du secteur privé. On ne fait pas ça pour se faire plaisir en ce moment. On fait ça justement par devoir de responsabilité pour donner un budget à la Nouvelle-Calédonie, donner de la visibilité à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il était important de montrer à l'État qu'on a une trajectoire de rétablissement des comptes publics. Et ce n'est pas parce qu'ils vont nous expliquer qu'il faut faire des réformes qu'on va en faire plus. Si la seule réforme qui est attendue par l'État, c'était l'augmentation de la pression fiscale, je préférais le dire directement au ministre de l'Économie qu'il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale.
Il s'agissait aussi de faire le point sur les prêts que l'État a accordés à la Nouvelle-Calédonie. Il n'y aura pas de pression fiscale supplémentaire imposée aux Calédoniens, rappelait le membre du gouvernement à ses interlocuteurs parisiens. Christopher Gigès s'est également rendu à Bruxelles. Dans cette période compliquée économiquement pour la Nouvelle-Calédonie, l'Europe peut être une source de financement important.
L'État a de moins en moins d'argent et donc il est important de se professionnaliser pour trouver d'autres sources de financement. Et on s'est insuffisamment tourné vers l'Europe ces dernières années sur plusieurs choses, c'est-à-dire un, les programmes européens de financement qui nécessitent qu'on se structure mieux au niveau de la Nouvelle-Calédonie pour aller les chercher, mais surtout que la Nouvelle-Calédonie puisse avoir une stratégie de valorisation de l'Europe dans le Pacifique et qu'on puisse porter l'Europe dans le Pacifique, notamment par l'accueil d'entreprises qui pourraient rayonner dans la zone par la Nouvelle-Calédonie. Et surtout ce qu'on a évoqué avec la directrice de la stratégie européenne et le commissaire européen en charge de la compétitivité et de la stratégie industrielle, c'est également les grands éléments stratégiques, notamment le nickel. On parle depuis longtemps d'une filière européenne du nickel. Il est temps de la matérialiser pour le nickel calédonien. Ce qu'on évoquait avec le commissaire européen en charge du sujet, c'est-à-dire un niveau de prix garanti pour les matières premières, ce qui permet de garantir une rentabilité aux opérateurs, mais également des financements, notamment sur le secteur énergétique, pour améliorer la compétitivité du secteur et notamment maintenir les emplois.
L'intégralité de cette interview de Christopher Gigès est à retrouver sur notre site internet rrb.nc.
RRB, il est 18h04.
L'économie sociale et solidaire à l'ordre du jour au Congrès. Les élus ont débattu de la création d'un haut conseil dédié à l'ESS. La proposition de délibération a été jugée trop prématurée dans le contexte actuel. Le texte a donc été renvoyé en commission, Charlotte Coulson.
Une instance de dialogue au niveau territorial, c'est ce que souhaitait mettre en place le groupe UC-FLNKS et Nationaliste avec cette proposition de délibération. Ce haut conseil de l'ESS serait en effet composé de deux comités, l'un stratégique, piloté par le gouvernement et réunissant représentants de provinces, de communes et chambres consulaires. L'autre comité serait plus technique, plus scientifique, réunissant les acteurs de terrain. Après l'adoption en juillet 2025 de deux lois de pays relatives à l'ESS, Omeyra Nesline, qui porte le texte, souhaite, avec ce conseil, créer un espace de dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs de l'économie sociale et solidaire.
L'enchevêtrement des compétences, de l'économie à l'échelle des provinces, la Nouvelle-Calédonie et des communes appelle ces instances de dialogue-là pour que les institutions puissent se coordonner et coordonner leurs actions publiques en la matière, parce qu'il y aura des doublons si chacun fait de son côté, alors que là on a vraiment un haut conseil de dialogue de haut niveau qui reprend tous les acteurs institutionnels, gouvernement, provinces, communes et des acteurs aussi de l'ESS, de la société civile, mais aussi des chambres consulaires, des experts.
Une bonne idée, oui, mais pas dans le contexte actuel. C'est ce qu'ont défendu plusieurs groupes au Congrès cet après-midi. Une motion préjudicielle a été déposée par Nina Julier de l'intergroupe loyaliste et adoptée à la majorité. Le texte va donc être renvoyé en commission. L'objectif n'est pas de bloquer la démarche, mais d'insister sur son caractère prématuré, a dit la membre du gouvernement en charge de la structuration de l'ESS, Naya Wateu.
Aujourd'hui, on considère que cette structure est prématurée dans le sens où, déjà, il faudrait savoir ce que représente l'ESS. Personne n'ignore ce qui s'est passé en mai 2024. Et aujourd'hui, au 31 décembre 2025, il nous est impossible de savoir ce que représente à nouveau l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite, la manière dont le texte est amené vient ramener cette gestion au gouvernement. On crée un 51e conseil en Nouvelle-Calédonie dans un contexte où aujourd'hui, notamment au niveau de l'administration, nous sommes engagés dans une démarche de mutualisation et de réduction des coûts.
Après l'adoption de cette motion préjudicielle, le groupe UCFLNKS et nationaliste a indiqué vouloir déposer un amendement pour une entrée en vigueur différée de la création de ce Haut Conseil de l'ESS.
Notez enfin ce rendez-vous d'antenne. Demain, dans notre magazine citoyen, nous allons parler du mangeons local. La Chambre d'agriculture et de la pêche milite pour mettre plus de produits locaux dans les assiettes des Calédoniens. Et pour ça, une charte a été signée pour le marché de Gros de Ducos. Pour en parler, nous recevrons le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, Jean-Christophe Niotou. Nous recevrons aussi Vincent Tantron, qui est arboriculteur, Marc Poncelet, pêcheur, et Kathleen Rabat, revendeuse grossiste sur les marchés. La transformation des marchés calédoniens, c'est à retrouver demain midi dans notre magazine Citoyen. Et il est 18h07, seconde pause, avant d'ouvrir notre page sport, et nous parlerons notamment tennis.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal Le Sport avec Léana Colombo.
Et nous ouvrons donc cette page sport avec du tennis et la suite de l'Open d'Australie sur les courts de Melbourne. On fait le point sur les résultats de la journée avec vous, Lionel Sabot.
Allez, on va commencer par la bonne nouvelle côté français avec Quentin Alice, 83e joueur mondial qui n'avait encore jamais remporté le moindre match à Melbourne. Et ben, il s'est qualifié en battant le Chilien Alejandro Tabilio en 3-7, 6-2, 6-2 et 7-6. Il s'est ainsi offert un duel avec le triple finaliste Daniil Medvedev au prochain tour. La mauvaise nouvelle du jour, elle nous vient d'Arthur Rinderknecht, 28e tête de série numéro 28, pardon, qui a été battu par le Hongrois Fabian Morazan en 4-7, 6-3, 6-4, 6-7 et 6-4. Le Français de 30 ans n'a atteint qu'une seule fois le deuxième tour à Melbourne. À sa première participation, c'était en 2022. D'autres Français seront sur les courts ce soir. Alexandre Muller, Adrian Manarino et Terence Atman. Et puis nous suivrons également Arthur Géa, le vainqueur du BNC Tennis Open de Nouméa, qui sera opposé tout à l'heure au Tchèque Jerry Leshka, tête de série numéro 17 de ce tournoi.
Et Lionel, on reste en Australie avec demain le coup d'envoi de la saison de cyclisme sur route, le départ du Tour Down Under dans la région d'Adélaïde.
Oui, effectivement, il s'agira de la première course à étapes inscrite au calendrier du World Tour. Au menu pour les coureurs, un prologue et cinq étapes autour d'Adélaïde. Demain, C'est dans les rues de la capitale de l'Australie-Méridionale que se disputera le prologue de ce Down Under 2026. Prologue sous forme d'un contre-la-montre individuel de 3,6 km. Au total, ce sont 140 coureurs qui disputeront cette première grande course de la saison. Les équipes qui disputent ce tour, qui ont laissé en Europe évidemment les superstars de la discipline. On notera tout de même la présence du Polonais Michel Kwiatkowski, du Britannique Ben Swift ou encore de l'Australien Jay Wine, qui est le grandissime favori pour s'imposer sur les routes d'Australie-Méridionale comme il l'avait fait en 2023. 10 coureurs français seront engagés dans ce Tour Down Under, dont le départ sera donné demain à 18h30 pour nous. Et puis c'est pas fini, parce qu'il y a le Tour Down Under chez les dames qui a débuté samedi. On courra aujourd'hui la troisième étape, une étape longue de 126,5 km, remportée par la Suissesse Noémie Rueg. Elle a devancé les Espagnols Mavi Canellas et Paula Blasi-Querol. Ces trois jeunes femmes qui occupent dans le même ordre les trois premières places du classement général. Il reste une étape à disputer chez les dames, ce sera mercredi.
Un tour dont vous avez parlé un petit peu plus tôt dans l'émission Sportmidable, une émission qui, je le rappelle, est à retrouver sur notre site rrb.nc. Et puis, de la nouveauté cette année sur les trails de Pro Evans, l'organisme spécialisé dans les épreuves sportives en pleine nature et notamment les courses à pied, organise en 2026 le premier Punch Power Pro Tour, une compétition qui se déroulera sur l'ensemble des épreuves prévues cette année. C'est ce que nous a dit Julie Prunet, co-gérante de Pro Evans, qui était notre invitée dans le Mac des Sports.
Du coup, on a voulu apporter un petit peu de nouveauté aussi pour Pro Event. Donc, on a créé le Punch Power Trail Tour 2026. Donc, il y aura 6 étapes. Donc, le premier, le Nea City Trail, le 21 février. Le deuxième, le Blue Bat Trail, le 26 avril. Le Dumba Trail, le 24 mai. Le Trail BCI, le 28 juin. Le Trail de l'Espoir, le 2 août. Et on terminera par l'Alliance Trail Pérignon, le 11 octobre. Donc c'est 6 étapes, donc toute l'année, tous ceux qui seront inscrits au Punch Power Trail Tour vont cumuler des points. Et le gagnant aura une grande surprise en fin d'année. Ça permet de fidéliser aussi nos coureurs qui sont là sur chaque étape et essayer de regrouper les meilleurs trailers tout au long de l'année grâce au Punch Power Trail Tour. La première étape, ça sera le City Trail. Donc on vous donne rendez-vous le 21 février. Donc là, il va y avoir 3 parcours, dont un hyper fun. Donc nous travaillons avec Remora pour les animations. Donc l'année dernière, on avait eu une belle fréquentation. Donc cette année, on prévoit encore plus d'animations grâce à Remora. Donc on est tous en train de travailler dessus pour proposer encore quelque chose de magique et de festif aux boucles de Tina.
Notez que sur l'ensemble des dates proposées par Pro Events, les formules classiques resteront proposées pour que tout le monde puisse continuer de profiter des différents parcours et même de randonner. Les inscriptions pour le Punch Power Pro Tour peuvent être réalisées sur le site internet de Pro Events. 18h13, on passe tout de suite à la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Swati, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous, Pierre. Une météo, vous allez détailler bon nombre de vigilances, il me semble.
Ah ouais, j'en ai pas mal, oui. Ça fait la main, carrément. Les 5 doigts de la main, oui. Donc, on commence avec la vigilance orange, forte pluie, orage sur la côte est à compter de ce lundi soir. Par contre, vigilance jaune, forte pluie, orage, elle aussi, sur le reste du territoire. Vigilance orange, forte houle, pointe nord et nord-est, mardi après-midi. Vigilance jaune, forte houle, sur le reste de la côte est, le nord-ouest, Ouvéa et Lifou pour la journée de mardi. Vigilance jaune, vent violent, nord cette nuit, puis l'ensemble du territoire mardi, hors Nouméa et Mont-d'Or. Cette nuit, le temps restera très instable sur l'ensemble du territoire, avec un risque orageux généralisé. Les pluies s'intensifieront d'abord sur le nord, avant de gagner progressivement le sud et les Loyautés au fil de la nuit. Des cumulus significatifs sont attendus, en particulier sur la façade est et le nord de la Grande Terre, mais également sur la côte ouest, où les débordements de cours d'eau pourront se produire localement. Le vent de secteur nord se renforcera nettement, 25 nœuds et plus sur la pointe nord, le nord-est et le nord des Loyautés, rafales pouvant atteindre jusqu'à 40 nœuds et 20 à 25 nœuds ailleurs, avec des rafales jusqu'à 35 nœuds. Sur la façade ouest, le vent restera plus modéré, 10 à 15 nœuds, mais des accélérations marquées sont attendues en sortie de vallée. Les températures nocturnes resteront proches des normales, comprises entre 25 et 26 degrés. Là, demain matin, la journée débutera sous un ciel couvert et pluvieux. Des pluies localement soutenues, parfois orageuses, concerneront l'ensemble du territoire, avec un risque accru de forts cumuls sur la côte est. Le vent de nord sera fort à violent, 25 à 30 nœuds sur la pointe nord, le nord-est et UVA. Rafale possible jusqu'à 45 nœuds, soit près de 85 km/h. Autour de 25 nœuds ailleurs, avec des rafales de 30 à 35 nœuds. Sur la façade ouest, le vent restera un cran en dessous, 15 à 20 nœuds, merci la chaîne, mais les effets d'accélération en vallée resteront marqués, merci encore la chaîne. Et côté marée, la mer, elle atteindra son niveau le plus haut ce soir vers 20h36. Elle redescendra en fin de nuit avec une basse mer autour de 2h47 avant de remonter demain matin pour une nouvelle pleine mer aux environs de 9h31.
Eh ben merci beaucoup Pierre pour cette météo toute détaillée. Et d'ailleurs, on la retrouvera aussi à 19h après le flash, parce que donc c'est le prochain rendez-vous.